chronique électorale, espace dédié à l'éducation civique et électorale sur Radio Capi. Pour toutes vos questions et préoccupations sur le processus électoral, les experts répondent à vos préoccupations chaque vendredi de 11h à 12h dans Capi Service. Pour participer à cette émission, appelez au 081 89 063 94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Ocapi Service.
Bien, la commission électorale, nationale indépendante et le pouvoir organisateur des élections en République démocratique du Congo. Cependant, la CENI ne réalise pas cette mission seule. Elle s'appuie parfois sur des parties prenantes au processus électoral. Alors, quelles sont ces parties prenantes et quel rôle jouent ces parties prenantes, ces partenaires dans le processus électoral? Eh bien, c'est là que nous allons échanger autour de cette question avec notre invité, Monsieur Désiré Molekela Ebene, directeur de l'éducation civique, électorale et sensibilisation à la CENI. Vous avez des questions et préoccupations, appelez déjà, le standard est ouvert, composez le 081-890-63-94, écrivez-nous également à service@radiocapi.net, postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Capi Service. Monsieur Désiré Molekela, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Bien. La première question est de savoir, pouvez-vous nous dire ce que vous entendez par partie prenante au processus électoral?
Pour la CENI, les parties prenantes sont les individus ou groupes qui ont un intérêt dans les opérations électorales dans leur ensemble. Les parties prenantes principales de l'OGE sont les individus et groupes qui affectent directement ou sont directement affectés par les activités, les politiques et les pratiques de la CENI. Les parties prenantes d'une ONG comprennent, en premier lieu, les partis politiques et les candidats, le personnel de l'OGE, il y a le personnel permanent que nous sommes.
C'est quoi l'OGE?
Organe de gestion électorale.
D'accord, organe de quoi?
De gestion électorale.
D'accord,
de gestion. OGE, voilà. Okay. Donc la CENI, c'est une OGE, en quelque sorte. Okay. Donc il y a les partis politiques et les candidats, mais aussi le personnel de la CENI, en tant par là personnel permanent que nous sommes, et les agents temporaires qui sont engagés juste pour une opération précise qui est un contrat temporaire. Nous avons le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux, observatoires électoraux nationaux et internationaux, les médias comme la CENI, et comme la Radio Capi qui nous accompagne depuis de nombreuses années, la société civile, et la communauté des donateurs et agents d'assistance électorale, comme la MONUSCO. Et enfin, on a les électeurs actuels et potentiels, parce que les jeunes qui ont 17 ans, 18 ans aujourd'hui, sont des électeurs potentiels. Alors, il y a aussi les parties prenantes secondaires de la CENI, qui sont individus et groupes qui évoluent dans l'environnement de la CENI, et ce sont ceux de façon moins directe que ceux que j'ai cités, donc les parties prenantes essentielles. Et on peut citer par exemple ceux qui fournissent le matériel à la CENI, c'est une partie prenante.
Quand on fournit pas les fournisseurs. Oui.
Les fournisseurs, c'est une partie prenante. Il y a le grand public, toute l'opinion publique, parce que les élections intéressent non seulement ceux qui ont 18 ans et plus, mais même les jeunes qui aspirent aussi peut-être demain à être électeurs. Et aussi, ce qui est important, il y a les forces de sécurité et de défense nationale qui sont là pour sécuriser les opérations électorales.
Donc voilà, c'est l'ensemble des parties prenantes au processus électoral. En premier lieu, vous avez cité les partis politiques.
Oui.
Alors, quelles sont les principales parties prenantes? Ça, vous avez déjà cité. Oui. Quel rôle jouent les parties prenantes dans le processus électoral?
En fait, chaque partie prenante joue un rôle particulier en fonction de ses attributions, de son compétence. Alors, en premier lieu, l'institution publique. Je commencerai par le chef de l'État, qui est l'autorité qui investit les membres de la CENI par ordonnance, une fois qu'ils ont été désignés et entérinés par l'Assemblée nationale. On doit savoir également que c'est le chef de l'État qui investit les gouverneurs et vice-gouverneurs de province qui sont élus par les assemblées provinciales. Le président de la République convoque aussi un cadre de concertation, c'est-à-dire le comité interinstitutionnel, qui réunit les éléments de l'assistance publique et ceux de la CENI pour échanger sur toute question électorale. En second lieu, nous avons le Parlement, la Chambre des représentants, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui ont pour rôle de voter tout à l'heure du code électoral. Et l'Assemblée nationale aussi, qui a un rôle parce que c'est l'Assemblée qui entérine les membres de la CENI et examine les rapports annuels de cette institution. En troisième lieu, on a le gouvernement. C'est important parce que le gouvernement est chargé de financer les opérations électorales et de les sécuriser. On a les cours et tribunaux qui ont en charge de gérer les contentieux électoraux. Et puis, deuxième catégorie, c'est les partis politiques. Quel rôle jouent-ils? Les partis politiques sont ceux qui concourent à la prise de pouvoir, donc sont eux qui présentent la liste des candidatures lorsqu'il y a élection. Et ils animent les campagnes électorales pour avoir la bénédiction des électeurs qui doivent voter pour eux. Et une fois que les élections sont terminées et que la CENI programme les résultats provisoires, ils peuvent, s'ils ne sont pas d'accord avec la CENI, introduire des recours auprès des cours et tribunaux pour contester les résultats de la CENI. Alors, les partis politiques aussi accréditent des témoins qui sont là pour sauver les opérations électorales, particulièrement le déroulement du vote dans les bureaux de vote et de dépouillement pour s'assurer qu'effectivement leurs candidats ne sont pas lésés. La société civile joue aussi un rôle important qui comprend les ONG, mais aussi les confessions religieuses qui accompagnent la CENI de la sensibilisation et l'éducation civique et électorale de la population. Ils jouent également un rôle important dans l'observation des opérations électorales. Les médias qui sont là en fait pour diffuser l'information électorale auprès de la population. Et lors des opérations électorales, ils sont là pour couvrir les opérations et rendre compte de leur déroulement. Et la communauté internationale, qui apporte un soutien, soit financier, ou technique, ou logistique à la CENI. Vous savez, nous avons ici un grand pays, vaste pays, aux infrastructures de transport assez délabrées, et la MONUSCO a, par le passé, apporté un appui important avec sa flotte aérienne et ses hélicoptères, pour transporter et le personnel
et le matériel
électoral dans les lieux surtout les plus reculés. Et des endroits où il faut aller par hélicoptère.
Des endroits enclavés.
Enclavés, voilà. Donc, on ne sait pas faire autrement. Et la CENI, la MONUSCO en tout cas, a beaucoup appuyé la CENI et la CENI dans le passé sous le plan logistique. Cette communauté nationale envoie également les missions de l'observation électorale pour surveiller le déroulement des opérations et faire rapport de la manière dont elles sont déroulées. Et nous avons enfin l'électorat. C'est-à-dire les électeurs qui sont en fait le souverain primaire. C'est eux qui votent pour les scrutins directs, pour élire les présidents de la République, les députés nationaux, les députés provinciaux, les conseillers communaux et les conseillers de secteur et de chefferie.
Voilà, donc il y a plusieurs parties prenantes dans le processus électoral. Merci à tous les internautes qui ont déjà réagi. Rodrigue Makita nous a écrit... depuis Mbandaka, les parties prenantes doivent accompagner la CENI lors du processus électoral. Cependant, la CENI doit également être à l'écoute des autres parties prenantes en vue d'instaurer un climat de confiance pour éviter les probables contestations post-électorales. Jusqu'ici, il y a un climat de méfiance des jeunes face à la CENI suite aux irrégularités déplorées lors du recrutement des formateurs additionnels et préposés. D'où il est temps de recadrer les choses. Depuis Mbandaka, Rodrigue Makita. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, Monsieur Désiré Molekela?
Bon, je dirais que, en fait, la CENI n'écarte aucune partie prenante. Il y a un cas de concertation avec les jeunes. Donc, on se concerte avec eux. Mais l'auditeur se plaint du fait que, selon lui, il y a des contestations sur les conseils de recrutement des formateurs additionnels pour l'opération des cartographies opérationnelles. Bon, c'est une contestation, c'est son opinion. La réalité, c'est que les gens ignorent que la CENI, au fur et à mesure, améliore ses procédures pour le recrutement de ses agents électoraux. Et cette fois-ci, on devait avoir 9000 préposés, à peu près une centaine de formateurs additionnels. Il y a beaucoup de candidats. Donc, dans un premier temps, il y a une première sélection qui se fait. C'est-à-dire, on voit si le candidat remplit les conditions. On retient ces candidatures-là. Seconde étape, maintenant, il passe un test. Il y a un test avant d'être, je dirais, recruté ou être admis à la formation. Et ne sont admis à la formation que ceux qui ont reçu le test. Et c'est un test sur l'ordinateur qui est assez corsé. Donc, on préfère avoir le meilleur pour s'assurer que l'opération va être bien menée. Et une fois que ceux qui sont réussis au test, ils sont maintenant admis à la formation. Et après la formation, encore un test d'évaluation. Ceux qui réussissent au test d'évaluation maintenant sont recrutés et vont sur le terrain pour faire leur travail. Donc il y a une certaine rigueur. Évidemment, ceux qui n'ont pas réussi ne peuvent que critiquer. Mais cette fois-ci, il y a une telle rigueur. Et c'est le test sur ordinateur qui fait que un individu ne peut pas influencer le test. Mmh. Donc on a essayé d'améliorer un peu les conditions pour qu'il y ait...
Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas...
Non, ça n'existe pas. On a en tout cas corsé les conditions de sélection et de recrutement des agents électoraux temporaires.
D'accord. Alors, une autre question, de savoir quelle relation la CENI entretient-elle avec ses parties, différentes parties prenantes?
Bon, en tout cas, la CENI entretient d'étroites relations avec les parties prenantes au processus électoral. La CENI, par exemple, contribue à l'élaboration du cadre juridique du processus électoral. Et ça, puisque le législateur, c'est le Parlement et le gouvernement, mais la CENI a des bonnes relations avec ces deux parties prenantes pour élaborer les lois relatives au processus électoral. La CENI assure aussi la formation des parties prenantes sur les questions électorales. C'est une question technique. Et la CENI est toujours disposée à organiser des séminaires de formation pour qu'ils soient à jour sur les questions électorales.
L'intention de toutes ces parties prenantes, gouvernement, parlement...
Absolument. Les juges, les cours et tribunaux, il faut qu'ils puissent bien rendre le contentieux électoral. Mmh. Maintenant, il y a aussi des cas de concertation avec toutes ces parties prenantes. Je veux les citer pour que les gens comprennent qu'on n'écarte personne. Pour la CENI, c'est inclure tout le monde dans le processus électoral. Nous avons le comité interinstitutionnel. Le comité liaison avec les partis et regroupements politiques. Il y a le cadre genre élection avec les femmes. Le cadre média élection. Le cadre jeunes et élections. Élections société civile, justice et élections, sécurité électorale et comité de partenariat qui réunit en fait la CENI, les membres du gouvernement et les partenaires internationaux. Donc c'est à travers ces cadres de concertation-là que la CENI entretient des relations étroites avec les parties prenantes pour échanger sur les opérations, également pour recueillir leurs avis et leurs propositions. Et la CENI en tient toujours compte.
Voilà, la CENI en tient toujours compte. Il y a un auditeur, un internaute qui nous a écrit, Norbert de Kananga. Les parties prenantes au processus électoral sont tout d'abord les partis politiques qui ont un rôle important à jouer. Former d'abord les militants de ces partis politiques et les structures de la société civile. D'après lui, les structures de la société civile ont également un rôle à jouer dans la mesure où elles doivent suffisamment communiquer et sensibiliser la population. L'important, c'est qu'il y a à prendre part au processus électoral et cela contribue suffisamment au renouvellement de la classe politique. Norbert parle des partis politiques et des organisations de la société civile.
Oui, effectivement, ce sont les partenaires les plus importants. Comme j'ai dit tout à l'heure, les partis politiques, ce sont eux qui présentent les candidats.
Est-ce que la CENI, les formes aussi, il arrive que vous organisiez aussi des rencontres avec les partis politiques?
Absolument. Par exemple, avant les élections de 2018... il y a eu des séminaires qui ont été organisés avec les responsables de tous les partis politiques, pas seulement à Kinshasa, mais dans les provinces. C'est parce que parfois, ils ne sont pas au fait de l'actualité électorale et parfois, ils contestent sans connaître le texte de loi. Donc, il y a eu des séminaires pour les former sur les questions électorales, même sur la manière de tenir recours dans les cours des tribunaux. Parce que si le recours est mal introduit, il est rejeté. Donc, en tout cas, on a traité de bon ensemble des partis politiques pour les former. Et souvent, d'ailleurs, eux-mêmes demandent, parfois aussi, qu'on aille former leurs témoins. Et c'est ce que nous faisons naturellement, parce que nous voulons que tout le monde qui a une part à jouer dans la politique électorale soit formé et soit au fait de la question électorale.
Bien, on va accueillir les auditeurs. André nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, la Radio Capi. Merci beaucoup de l'écoute.
On vous écoute, André.
Voilà, je n'ai pas grand chose, mais seulement que je vais demander à l'invité, c'est beaucoup plus, nous avons compris qu'il y a certainement de parties prenantes, mais dans tout ça, il y a la base, c'est que la CENI, doit quand même nous aider, parce que ça revient, dans les attributions de la CENI de pouvoir sensibiliser. Vous voyez, je voyais à l'époque de Nanga, c'est peut-être une chaîne était mise à la disposition, quelque chose comme ça, uniquement pour les orientations, les informations à la population, parce que lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, ce qu'on doit faire, normalement, on ne peut que tomber dans les aléas. C'est pour cela que je vais beaucoup plus demander à la CENI de vraiment charger son appareil de sensibilisation, de beaucoup plus communiquer, et les parties prenantes et aussi la CENI elle-même, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu bloquées à ce niveau-là. Donc, si la CENI nous aidait, nous permettait à beaucoup plus nous informer, ça va aussi alléger les doutes, parce qu'il y a le doute au départ. Quand il y a le doute, tout ce que la CENI fera, ça sera nul et sans effet. C'est ce que je voulais vraiment demander à la CENI, de pouvoir nous aider à nous informer, parce que la population, quand nous faisons partie, n'a pas suffisamment d'informations sur la CENI. Quelle fait la CENI? Quel est le rôle de la CENI? Et quelles sont les parties prenantes, comme l'invité vient de les énumérer? Tout ça, la population ne connaît pas. En 2018, il s'est passé quelque chose d'anormal. On enrôle les gens. Par exemple, je suis à Kinshasa, ici, dans la commune d'Ntélé. Mais on me dit, non, vous allez voter le jour du vote. Tu vas voter à Massina. Vous voyez, quelque chose du genre comme ça. C'était vraiment un peu organisé pour que peut-être les gens ne prennent pas part au vote ou tout ça. Donc, il faut qu'on organise tout ça, préparer. C'est maintenant qu'il faut préparer. Et maintenant, du côté parti politique, comme partie prenante, parce que c'est aussi ce qui nous amène beaucoup plus de contestations et tout. Parti politique, c'est maintenant qu'il faut travailler, préparer la base. Mais en nous voyant que les partis politiques que nous avons, peut-être ne comprennent pas le rôle des partis politiques ou des partis politiques. C'est ça ce que je voulais, j'ai constaté. Et on voit les gens, un regroupement des gens qui sont là seulement, vite fait, à la veille des élections, oh, nous, on est parti politique. Mais c'est maintenant qu'il faut s'aimer, il faut travailler sa base, il faut éduquer surtout sa base. Vous voyez, de ce côté-là, il y a aussi à boire et à manger, en tout cas. Mais c'est de cette façon-là que je voulais intervenir.
Bien, merci beaucoup. On va donner la parole à Héritier de Bounia. Bonjour. Héritier, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à M. Lévité.
Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux parties prenantes au processus électoral?
Oui, je voudrais en fait poser trois questions à M. Lévité. Il y a les parties prenantes qu'il vient de nous citer. À quel niveau ces parties prenantes peuvent intervenir lorsque la CENI serait politisée? C'est la première question. La deuxième question, quelle est la différence entre le recensement et le statut, et la Commission nationale de statistiques et le recensement? Comment peut-on faire la différence
entre le recensement et quoi?
Et statuer la population. Donc, on cartographie la population à ce bazar. Donc, il y a la Commission nationale des statistiques et le recensement et recenser la population. Alors, moi, je ne connais pas différencier ces deux éléments-là.
Bien.
Je pense que vous avez compris, monsieur Jody. La troisième question, c'est de voir pourquoi est-ce que nos députés ne peuvent pas voter une loi qui puisse permettre à ce que la population elle-même vote les gouverneurs pour éviter ce que nous avons souvent vu dans nos provinces. C'est ça ce que j'avais comme préoccupation.
Bien, merci. Maître Mopila nous appelle de Guémena. Bonjour.
Bonjour aujourd'hui, bonjour à l'invité. En fait, je suis content par rapport à ce thème parce que par le passé, en fait, j'ai aussi l'ambition, si jamais Dieu me prête vie, je suis candidat parce qu'il a cité parmi les partis prenants, il a cité les partis politiques, entre autres, les candidats qui sont comme partis prenants à les élections. Mais depuis ma bonne, je tiens à dire par rapport aux cartographies. D'ici là, la CENI a organisé, a formé les gens, veut quitter les gens pour aller faire ce qu'on appelle les cartographies. Pour placer le bureau de vote, le bureau de recensement, ainsi de suite, et pour l'enrôlement. Mais je prends le cas de la ville de Zongo. La ville de Zongo pourrait être Bangui. La ville de Zongo, c'est une ville montagneuse. Alors, derrière les montagnes, il y a la population qui sont nombreuses, que ceux qui sont habitent la ville elle-même. Maintenant, les gens qu'on a recrutés, des fois, ils viennent de Tanière, ils connaissent pas la ville de Zongo. On les appelle pour faire la cartographie dans un musée qu'ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi ce problème continue à se poser. Les agents qui vont faire la cartographie, il serait souhaitable que la CENI puisse prendre les gens du milieu, les gens, les notables, par exemple, les chefs du quartier, les chefs de rue, ils connaissent que non, dans tel endroit, il se trouve ma population. Ils vont à zone, ils se retrouvent seulement dans les villes. Mais ils connaissent pas Bakoté, ils connaissent pas Nzulu, ils connaissent pas les endroits, entre autres, un endroit qui sont derrière les montagnes à zone, là, il y a des populations. Mais là, ça pose un problème, et la vie des hommes perd le siège à cause de ça. Parce qu'il y a plusieurs enrôlés, il y a plusieurs sièges à Zongo. Plusieurs années, il n'y a qu'un seul siège de provincial, un seul siège au niveau national, dans la plus de population. Là, moi, je demande à ce monsieur-là que ce n'est pas trop tard qu'il puisse revoir encore ces gens qui vont faire la cartographie, souvent les gens qui connaissent pas le milieu. Ça, c'est de un. On dit les contestations électorales, ou bien les contestations électorales sont gratuites. Maintenant, quand nous allons un candidat au niveau de la justice, par exemple, la cour d'appel, pour introduire sa requête, pour contester le résultat. On arrive là-bas, la loi dit que c'est la gratuité. Maintenant, les greffes, ils vont trouver l'argent où pour envoyer, notifier et faire ceci. Est-ce qu'ils ont un budget pour cette gratuité-là au niveau des greffes de la cour ou au niveau des codes de cour de droit de notre Conseil d'État? Parce que nous allons là-bas, on dit gratuit, mais on paye l'argent. J'ai des preuves pour ça. Ça, c'est de deux. Monsieur qui est par devant vous là. Parce qu'il a cité des gens qui sont comme des
partis. Les parties prenantes, oui, au processus électoral. C'est M. Désiré Moleké là.
Mais ça soit aussi le point de fait, ça doit être aussi le point de droit. Pour être le parti prenant, aussi le fait. Mais pas aussi le droit, parce qu'il ne respecte pas ses partenaires. Quand on dit que non, faites ceci, la police s'impose. Faites ceci, la famille vous s'impose. Or, les victimes sont les parties prenantes. Ils ont tenu compte, quand on parle de parti prenant, ça doit être le droit et non le fait. Voilà pourquoi on leur demande. Et c'est là par trop tard, on puisse arranger pour qu'il n'y ait pas de contestation. C'est que moi j'ai aimé le fait qu'on a rentré, on a fait rentrer, j'ai fait de magasin de droit, parce que par le passé, il était mal traité par rapport au cibordage. C'est vraiment quelque chose d'inutile et politique. Merci beaucoup.
Bien, merci Maître Mopila. Nous donnons la parole à Monsieur Désiré Molekela. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces auditeurs?
D'abord il y a le dernier interlocuteur ici qui parle donc de la séquestration de Zongo. Il dit qu'il y a des montagnes. En fait, il se plaint, il pense qu'il y a une population qui habite des lieux qui sont inaccessibles. Ce qu'ils doivent savoir, c'est que la CENI, dans sa politique, veut inclure toute la population. Donc, nous connaissons les lieux d'accès difficiles. Et lorsque c'est le cas, on renforce les agents pour qu'ils aillent jusque-là. Donc, et en plus, ils disent, on recrute des gens qui ne sont pas du milieu. Non, on recrute sur place. Ces agents qui vont là-bas ne viennent pas de Kinshasa. Ils sont recrutés à Zongo même. Il y a un avis d'offre d'emploi. Les candidats qui veulent viennent, on n'impose pas. C'est la loi qui nous dit qu'il faut annoncer et faire la publicité. Ceux qui viennent, qui remplissent les conditions, sont recrutés. Alors comment il peut dire qu'ils ne connaissent pas les milieux? Bon, c'est possible. Mais en plus de ça, chaque préposé à la collecte des données qui va sur le terrain, avant d'aller sur le terrain, voit d'abord l'autorité territoriale. Soit de Bourgoumès, c'est une commune, ou le chef de groupement. Avec qui il échange sur le travail qu'il va faire, à savoir que je devais aller dans tel village, tel endroit, et il échange pour savoir là où étaient placés les CI avant, et là où, soit le chef de groupement, il estime qu'il y a une population qui habite quelque part, mais il n'y a pas eu de CI. À ce moment-là, le proposé en tient compte et va vers la population pour savoir qu'il y a une population qui habite ici. S'il n'y a pas eu de CI dans le passé, on va créer un CI là-bas. Donc l'effort que la CENI fait, c'est que pour atteindre toute la population, partout où elle est, même dans les coins les plus difficiles. Donc je peux rassurer que effectivement on tient compte de cela. Alors, quand maintenant il dit le contentieux est gratuit, mais quand ils vont au greffe, ils payent, la CENI ne peut pas répondre à cette question-là.
Les cours des tribunaux aussi sont, enfin, passant, sont des parties prenantes.
Des parties prenantes.
Au processus électoral.
Oui, mais on n'a pas à leur imposer. Oui. Nous collaborons, on travaille ensemble, mais eux, s'ils ont des procédures à eux, en tant que cour et tribunaux, qu'est-ce que nous pouvons faire?
La CENI n'a rien à voir.
N'a rien à voir, il faut poser la question aux cours des tribunaux. Alors, ensuite, il parle aussi des parties prenantes de droit et de fait. En fait, les parties prenantes sont les forces vives de la société congolaise. On les trouve partout. Ceux qui sont de droit peut-être l'assistance publique, les cours et tribunaux, mais il y a aussi des parties prenantes de fait. On ne peut pas les ignorer. L'important, c'est que toutes les parties prenantes qui ont un rôle à jouer dans le processus électoral, soit atteint et qu'on puisse changer avec la CENI pour voir comment elle peut participer au processus électoral.
Je ne vous ai pas entendu parler des associations des jeunes, et pourtant les jeunes sont nombreux, ils sont regroupés dans des associations.
Oui, il y a un cas de concentration spécifique jeunes élections, je l'ai dit. Et c'est animé par un membre qui réunit effectivement les jeunes, partout on peut les réunir, pour ce genre d'activité. Et ce qui se passe dans les provinces, les territoires, les villes, c'est que les CEP, chefs d'antenne, quand ils font des cas de concertation, ils n'oublient aucune catégorie. Ils invitent non seulement les autorités territoriales, les églises des partis politiques, des ONG aussi, mais on tient compte aussi, surtout, des femmes et des jeunes. Donc c'est une catégorie qui est très sensible, qui est très nombreuse et qui n'est pas négligée. Donc en tout cas, la CENI tient compte de cette grande majorité de la population congolaise constituée des jeunes.
Bien. Voilà, il y a eu Héritier qui a parlé de la CENI qui est politisée, André qui dit qu'il faut communiquer souvent pour faire partir les doutes, parce que les gens ont des doutes par rapport à au processus électoral, etc. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Bon, CENI politisée, je ne sais pas, parce qu'il faut voir qui sont délégués à la CENI par donc les ceux qui sont habilités à proposer. Il y a bien sûr ceux qui sont proposés par les partis politiques, la majorité comme l'opposition. Mais la société civile aussi a une part importante. Et on a même accru la participation de la société civile, qui n'est pas politique. C'est-à-dire, il y a les confessions religieuses qui avaient un délégué, qui en ont maintenant deux, la société civile aussi, qui a maintenant à peu près 5 candidats sur les 15 membres de la CENI. Donc, il y a quand même un certain équilibre qu'on trouve dans la composition de la CENI. Alors, ce qui concerne la communication, c'est vrai, il faut beaucoup communiquer, il faut beaucoup informer, mais la difficulté, c'est que nous avons un vaste pays, où on n'a pas les infrastructures identiques partout. C'est ainsi que, par exemple, si dans les villes, il est facile de communiquer avec les médias, notamment les radios, les télévisions, tout ça.
Ce qui n'est pas le cas ailleurs.
Sur les milieux ruraux. Et là, il faut aller vers la population. Ce qui veut dire qu'il faut suffisamment de moyens. Et la CENI, en tout cas, s'investit et fait un effort pour aller vers la population de l'intérieur. C'est comme ça qu'il y a des parties prenantes, comme la société civile, les confessions religieuses, on travaille avec eux pour sensibiliser la population. Parce qu'ils sont partout. Partant toutes les confessions religieuses, les ONG qui travaillent là-bas. Donc c'est avec eux que nous travaillons pour pouvoir atteindre toutes les parties de la population, surtout dans les milieux ruraux. On a toujours travaillé avec eux, on va continuer à le faire. Donc on ne doit pas penser que la CENI va communiquer moins, au contraire. On va accroître la communication et le faire en tout temps pour que la population soit effectivement informée de tout ce qui est processus électoral en RDC.
Bien, quels sont nous parlons du rôle des parties prenantes au processus électoral en République démocratique du Congo. Des questions et préoccupations, composez les 081 890 63 94.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Bien, merci à vous qui venez de nous rejoindre. Vous êtes, vous écoutez l'émission Okapi Service et la chronique électorale. Aujourd'hui, nous parlons du rôle des parties prenantes au processus électoral avec Monsieur Désiré Molekela Ebene. Il est le directeur de l'éducation civique électorale et sensibilisation à la CENI. Une autre question, Monsieur Désiré, est de savoir qui anime les, disons, le cadre des concertations avec les parties prenantes au processus électoral.
Au terme de l'organisme de la CENI, c'est le président qui anime les cas de concertation. Mais il peut déléguer un autre membre du bureau de la plénière pour le faire quand il est empêché. Mais aussi, puisqu'on va atteindre également les coûts les plus près de la population, les secrétaires des types provinciaux qui dirigent les provinces et chefs d'antenne qui sont dans les territoires et villes animent également les cas de concertation par délégation. Alors, j'aimerais revenir sur une question qui a été posée avant, à laquelle je pense qu'il faut répondre. C'est l'auditeur qui a posé la question de Bougna, je crois. La différence entre le recensement et l'identification normale des électeurs. Le recensement de la population, c'est l'affaire de l'INSS, l'Institut de statistiques. Là, on recense toute la population, congolaise comme étrangère, avec beaucoup d'éléments qu'on récolte pas seulement pour avoir qui est qui, mais également savoir quelles sont les infrastructures, les habitations, les écoles qui sont implantées. Donc ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus de moyens. Il y a l'ONIP aussi, qui fait le recensement, mais uniquement pour pouvoir accorder des cartes d'identité aux Congolais. C'est ce qu'elle va faire bientôt. Et la CENI ne s'intéresse qu'à ceux qui sont majeurs, 18 ans et plus, et qui ont besoin d'avoir la carte d'électeur pour voter. Mais il faut relever ici que le gouvernement a voulu qu'on puisse mutualiser ces trois opérations, de sorte qu'on puisse économiser, que ce soit efficace. C'est ce qui va se faire certainement, sans empêcher toutefois la CENI, évidemment, de faire le rendement des électeurs. Mais la CENI va travailler cette fois-ci en collaboration avec l'INSS et l'ONIP, chaque institution ayant effectivement une activité différente de l'autre.
Voilà. Parce qu'après l'opération de cartographie, ce sera l'enrôlement.
Effectivement, parce que...
L'enrôlement des électeurs.
Oui, la cartographie permet non seulement de situer les centres d'inscription, les écoles, les hôpitaux, autres lieux publics, également d'autres éléments, notamment comment acheminer le matériel sur place, savoir où sont
la logistique,
où sont les radios communautaires pour la population, et ce qui permettra alors de faire l'enrôlement des électeurs. Et l'effort qu'on fait, c'est que l'électeur ne soit pas trop loin de son inscription, pour qu'il puisse venir facilement avoir sa carte d'électeur. Et comme le bureau de vote est souvent, c'est le même site que le centre d'inscription, pour qu'ils viennent voter également de manière
correcte. Et s'il doit y avoir recensement, cela doit se faire avant l'enrôlement des électeurs.
Pas nécessairement. Comme j'ai dit, c'est une mutualisation. On va travailler de pair. De toute façon, la CENI n'attend pas les autres. La CENI va faire son travail. La CENI a besoin d'un certain nombre d'informations. L'ONIP et l'INSS ont besoin de plus d'informations dans le recensement. En fait, ils vont se servir du fichier de la CENI pour pouvoir compléter et faire le recensement de la population.
Bien, il est revenu également sur l'élection des gouverneurs. Pourquoi la population ne voterait pas directement les gouverneurs? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet?
Bon, ce que je peux dire, c'est qu'il doit savoir que le scrutin direct coûte cher, parce qu'il faut appeler toute la population. Pour le moment, dernièrement, on était à 40 millions d'électeurs.
Donc ça demande... Ça coûte cher et ça prend du temps.
Ça prend du temps. Les sols directs, l'électorat est beaucoup plus limité. Pour le moment, le gouverneur est élu par l'Assemblée provinciale. Mais en fait, il appartient à ceux qui initient les lois de pouvoir modifier. Il n'appartient pas à la CENI de pouvoir modifier. Parce que si la CENI doit faire 13 scrutins directs pendant le processus électoral, c'est lourd, ça coûte et c'est beaucoup difficile. C'est comme ça qu'il y a des élections directes et des élections indirectes, c'est-à-dire où c'est les assemblées, notamment assemblée provinciale, conseil communal, conseil de secrétaire de chefferie, qui élisent maintenant d'autres mandataires au scrutin indirect.
On va accueillir Faustin depuis Bukavu. Bonjour Faustin.
Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, bonjour à messieurs les
électeurs. Veuillez réduire le volume de votre radio Faustin, parce que ça, on entend un retour désagréable ici à l'antenne, vous allez suivre à partir de votre téléphone. Nous parlons...
Merci beaucoup messieurs les journalistes, j'ai des petites préoccupations que j'aimerais que messieurs les électeurs répondent.
Oui.
L'ADC a déjà parcouru 3 cycles électoraux et parmi chaque cycle, il y a toujours certains gens, soit des candidats ou des membres des partis politiques, qui suggèrent qu'il y avait peut-être des irrégularités.
Oui, Faustin.
Quelle est la position de la CENI face à ces irrégularités et qu'est-ce qu'il faut pour les irrégularités?
Voilà, on vous entend, on vous écoute difficilement. Vous avez dit qu'il y a déjà eu 3 cycles électoraux, mais à chaque cycle, on déplore toujours des irrégularités. Et qu'est-ce que la CENI doit faire pour corriger? Je pense que c'est ça votre idée. Bien, voilà, la communication n'est pas très bonne avec Étienne. Faustin, pardon. On va accueillir Étienne depuis Mahagi. Étienne, bonjour.
Bonjour, Jordi Daniel. Bonjour à l'invité.
Nous parlons du rôle des parties prenantes dans le processus parties prenantes au processus électoral. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Merci beaucoup. Je vous remercie d'abord pour le choix de ce thème. Je n'ai pas trop à dire, monsieur l'invité, concernant les parties prenantes dans ce processus, nous avons aussi les témoins qui sont parfois délégués par les partis politiques dans les bureaux de vote pour assister. Maintenant, ce qu'on avait assisté ici, dans certains bureaux de vote, où je ne dévoile pas les noms, c'est que les témoins étaient allés assister dans les votes, donc les résultats étaient un peu contradictoires avec les résultats qui étaient fichés après les élections. Alors, je pose cette question, monsieur l'invité. Concernant cette partie, les partis prenantes, est-ce que les résultats des élections plutôt seront publiés bureau de vote par bureau de vote? C'est ça la question. Et je vois que lorsque les résultats ne seront pas publiés bureau de vote par bureau de vote, je doute, il y aura toujours des contestations. Voilà un peu ma brève contribution. Bonne suite de l'émission.
Merci Étienne. Depuis Mahagui, quel est le rôle des parties prenantes au processus électoral? Bienvenue, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour Radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Bienvenue.
Oui, je dis d'emblée, lorsque l'invité a commencé à énumérer les parties prenantes au processus électoral, il a cité les organisations de la société civile, les partis politiques, tout comme des personnes physiques. J'aimerais juste avoir les informations. Est-ce que les avis qu'émettent ces organisations ou toutes les parties prenantes, la CENI prend-elle en considération? Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Hier, nous avons tous suivi la publication de l'attache qui dit, oh, qu'est-ce que c'est dit? De Jérôme Bosse avec son association qui dit l'organisation des élections, c'est incertain. Est-ce que la CENI prend toutes ces considérations-là en compte? Parce que nous voyons comme si la CENI est tentée de nier tout ce qu'on reproche à son organisation. Et ils tiennent, parce que lorsque nous avons animé la première émission avec le président de la CENI, il nous a bien rassuré que les élections auront bel et bien à l'année prochaine. Mais en voyant tout ce qui se passe sur terrain, la fois passée j'avais suivi, le vice-président avait lancé encore l'opération sur la formation des agents de la cartographie. Donc, rien n'augure que les élections auront bel et bien lieu l'année prochaine. C'est pour cela que j'aimerais juste que l'invité nous réponde. Est-ce que réellement ils prennent toutes ces considérations-là en compte?
Bien, merci, bienvenue de Kinshasa. Monsieur Désiré Molekela.
Bon, et à la dernière intervenante, bienvenue. En fait, il dit, le président de la CENI avait affirmé ici qu'il y aura bel et bien élection 2023. Moi, je ne fais que le confirmer. Alors, évidemment, il y a les parties prenantes. Il a cité Jérôme Bonso, société civile. On tient compte de leurs avis. C'est pas pour rien qu'il y a des cas de conseil qui sont organisés où c'est pas seulement la CENI qui parle. Et ils parlent. Et ces parties prenantes sont souvent très critiques. Quand ils sont pas d'accord.
À la CENI.
À la CENI, oui. Et la CENI ne peut pas ne pas en tenir compte. Sinon, pourquoi ce constat avec eux, si on ignore ce qu'ils disent? On en tient compte. Mais je pense que, une partie prenante peut avoir une opinion politique, mais la CENI, qui organise les élections, sait ce qu'elle fait. La preuve, c'est que la CENI a publié une feuille de route, que tout le monde a consultée.
Et qu'elle est en train de suivre.
Voilà, en train de suivre. S'il y a quelque part un problème, à ce moment-là, on pourra émettre de doutes. Mais si la CENI, pour le moment, respecte cette feuille de route. C'est-à-dire que la CENI a la volonté et déterminée à respecter donc le délai fixé par la Constitution pour les élections 2023. Ça, c'est ce que je peux affirmer. Mmh. Alors, il y a également...
Faustin qui dit que de Bukavu, qui a dit on a eu plusieurs cycles, trois cycles électoraux, il y a toujours des irrégularités. Qu'est-ce que la CENI peut faire pour que cette fois-ci, qu'on ne parle plus des irrégularités?
D'abord, quand il y a une irrégularité, la loi permet aux parties prenantes qui sont lésées, les partis politiques et les candidats, d'introduire un recours auprès des cours et tribunaux. Ça, c'est la première précaution qui est prise. Deuxièmement, pendant le processus électoral, les témoins des partis politiques, ils peuvent participer, vérifier comment se passe dans le bureau de vote. Ils sont appelés à venir le matin avant l'ouverture de bureau pour constater effectivement que le matériel est en place, que l'urne est vide et transparent avant les opérations. Et à la fin des opérations de vote, lorsque le bureau de vote se transforme en bureau de dépouillement, ils sont encore là. Donc ils voient
les témoins.
Comment... Oui, ils sont là. Ils voient comment on décompte les voix, tel parti, tel individu. Et puis après, on fait un PV, la personne de dépouillement. On leur demande de signer ces PV-là. C'est une copie de ces PV qui est affichée devant le bureau de vote. En plus, on donne aux partis politiques qui ont envoyé des témoins par un témoin, on leur donne une copie pour qu'ils puissent éventuellement plus tard pouvoir s'en servir au cas où ils contestent les résultats publiés par la CENI. Donc, la transparence durant le processus électoral fait que il y a une certaine surveillance des témoins des partis politiques. Donc, s'il y a irrégularité, ils vont le dénoncer, on en tiendra compte. Bon, deuxième, il y a aussi les observateurs qui sont là aussi, qui observent, et qui, quand ils ne sont pas d'accord, dénoncent les irrégularités qui sont relevées. Donc, en fait, il y a plusieurs façons de pouvoir prévenir les irrégularités dans le processus électoral.
Et Étienne Demargue qui dit il y avait des partis des témoins des partis politiques dans les bureaux de vote, mais les résultats qui étaient affichés étaient contradictoires de ce qui a de la décompte qui a été faite. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Bon, il faut dire que parfois les témoins des partis politiques assistent aux opérations, mais peut-être ne prennent pas la peine d'attendre pour avoir une copie des fiches des résultats. En plus, la CENI, pour éviter justement que les partis ne puissent manquer de preuves quand ils vont devant la cour des tribunaux. Mmh. On peut également obtenir, si on n'a pas obtenu au niveau du bureau de vote et de dépouillement, une copie de la fiche des résultats, l'antenne de la CENI peut également vous donner une copie de la fiche des résultats donc certifiés par l'antenne. Donc, les partis politiques qui veulent vraiment avoir les preuves pour pouvoir aller en cause à la cour des tribunaux peuvent avoir tous les documents. Parce que quand vous allez devant les tribunaux, vous n'avez aucune preuve, c'est facile de dire qu'il y a irrégularité, mais il faut encore apporter la preuve.
En fait, alors, vous avez dit que vous leur donnez les on fait la décompte ensemble et puis vous avez le compte rendu.
Oui, et puis ils signent. Non seulement ils signent, mais peuvent également faire des annotations sur le PV des dépouillements. Pour dire ça, qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils ont conseillé quelque chose. Ça permet
ils peuvent noter
ils peuvent également faire des annotations pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils ont conseillé une réalité. Ce qui fait que quand les résultats font sens de compilation maintenant, on en tient compte lorsqu'on compile. Même à Kinshasa, on peut également vérifier que tel témoin a dit qu'il y avait irrégularité. On vérifie pour effectivement redresser les résultats si effectivement il y a eu irrégularité.
Voilà, Étienne est revenu, lui, il propose qu'il y ait publication des résultats bureau de vote par bureau de vote.
Bon, déjà le fait qu'on affiche les résultats après le dépouillement devant le bureau de vote, c'est déjà une transparence. En plus, on remet une copie de la fiche des résultats aux témoins des partis politiques. Ils peuvent vraiment la voir au niveau de l'antenne. Bon, la loi n'oblige pas, jusqu'à aujourd'hui, n'oblige pas la CENI publie les résultats bureau de vote et bureau de vote. La loi qui est maintenant en examen au Parlement, il semble qu'on a voulu introduire cette obligation-là. Si tel est le cas, la CENI, qui applique la loi, va publier les résultats bureau de vote et bureau de vote.
Voilà, tout dépend de la loi, de ce qui sera
voilà, décidé au niveau du Parlement. La loi. Donc en fait, la loi ne fait que exécuter ce que la loi lui dit de faire.
Bien, les cadres de concertation ont-ils été organisés depuis la prise des fonctions des nouveaux membres de la CENI?
Bon, depuis la prise des fonctions des membres de la CENI, ces membres se sont rendus dans toutes les provinces et ont animé des cadres de concertation qui ont permis d'échanger avec les parties prenantes, notamment sur la feuille de route du processus électoral, mais également sur l'opération qui est en cours de cartographie opérationnelle.
Ils ont sillonné toutes les provinces.
Toutes les provinces, absolument.
26 provinces et la République.
Oui, et parfois certains membres ont dû faire deux provinces parce qu'ils sont 15, ils ont 26 provinces. Donc, toutes les provinces ont été couvertes par tous les membres du bureau et de l'Assemblée plénière de la CENI. Et là, ils ont tenu des cadres de concertation. Au niveau de Kinshasa, la CENI aussi a convoqué des réunions de préparation pour tenir ces cadres de concertation, notamment avec les associations de défense des droits des femmes et ceux de défense des droits des personnes vivant avec handicap. Donc, c'est pour préparer ces réunions, voir quelles sont les préoccupations, de sorte qu'elles puissent se passer dans de bonnes conditions. Alors, il faut dire aussi que la CENI a également invité le monde scientifique avant l'opération en cours pour avoir leurs avis. Parce que c'est une question qui est technique. Il faut non seulement aller sur
le
terrain.
Ah, vous avez aussi des échanges avec
le monde scientifique.
Le monde scientifique, oui. Les professeurs d'université.
D'université. Parce qu'ils ont également un rôle à jouer pour améliorer notre façon de voir les choses. Parce que vous savez, dans la cartographie opérationnelle, non seulement on repère le lieu, le site, mais également on prend les coordonnées géospatiales. Donc, ça demande une certaine technologie. Et nous avons les professeurs d'université.
Les démographes, vous travaillez
avec les démographes. Ils sont venus pour donner leur point de vue pour qu'on puisse améliorer les opérations. Donc, vous voyez, la CENI est vraiment ouverte et fait impliquer toutes les parties prenantes pour avoir de bons résultats pour les opérations électorales.
Voilà. Est-ce que les parties prenantes accompagnent la CENI dans l'opération d'actualisation de cartographie opérationnelle qui se déroule sur le terrain?
Oui, absolument. Même dans le cadre de concertation, ils étaient invités. Au niveau donc il y a les gouvernements provinciaux, l'assemblée provinciale, la société civile, les jeunes, les femmes, les médias ont été invités dans ce cadre de concertation-là. Et puis en plus de ça, comme parfois il y a les provinces, il y a parfois des questions d'insécurité, il y a les autorités provinciales qui organisent des réunions de sécurité auxquelles sont également est invitée également la CENI. Donc les parties prenantes, même pour cette opération, ils participent. même si la population n'est pas directement concernée, mais en tout cas avec les parties prenantes qui sont intéressées, mmh. ils sont également invités, ils ont participé au cadre de concertation pour cette opération.
Et qu'est-ce que la CENI peut attendre des différentes parties prenantes pour les prochaines élections?
Bon, disons que pour les prochaines élections, la CENI attend une implication totale des parties prenantes pour l'accompagner, parce qu'elle ne peut pas réussir seule à la base des parties prenantes, notamment le Parlement, pour avoir des lois qui soient adoptées à temps, notamment la loi électorale, qui heureusement est déjà en cours d'examen au Parlement, et là sur la question des sièges, par exemple, parce que si cette loi, parce que quand on aura fini la justice électorale, mmh. c'est à ce moment-là qu'on saura exactement le nombre de la population et qu'on va fixer la loi sur la question des sièges, qui est importante parce que c'est elle qui permet à ce qu'on puisse avoir dans la circonscription et avoir autant de sièges, donc autant de candidats pour cette circonscription. Bon, société civile, évidemment, elle attend toujours qu'elle puisse nous accompagner, l'éducation de la population, l'information, les médias.
Mais dans la société civile, vous travaillez plus avec avec aussi les confessions religieuses.
Oui, les confessions religieuses et les organisations non gouvernementales. Mmh. Et on attend aussi des médias aussi qui puissent continuer à nous accompagner. Et vous savez, Radio Capi a l'avantage d'être soutenu du territoire national. La RTNC aussi nous assiste, même des radios privées aussi, hein. Mmh. Mais au niveau des milieux ruraux, ce sont les radios communautaires qui jouent un rôle très important.
Parce pour passer des messages en langue locale.
Voilà, langue locale. Etc. Ouais. Donc c'est vraiment très important. Et ces radios sont suivies. Mmh. Donc on attend les parties prenantes vraiment qui nous accompagnent et qui s'impliquent dans la procédure électorale pour qu'on puisse avoir les élections apaisées.
Donc on peut dire que la CENI n'a pas laissé de côté aucune organisation. Vous travaillez avec tout le monde.
Avec absolument tout le monde. Comme j'ai dit, mmh. il y a des parties prenantes peut-être essentielles qui sont impliquées directement, mais d'autres qui sont secondaires, mais qui apportent quelque chose à la CENI. Mmh. On doit travailler avec eux. Le but, c'est que tout le monde soit impliqué, de sorte que les opérations puissent se dérouler dans de très bonnes conditions.
Bien, merci Monsieur Désiré Molekel. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le directeur chargé de l'éducation civique, électorale et sensibilisation à la CENI. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
C'est la CENI qui vous remercie pour l'invitation.